Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par le laboratoire d'Inveo. D'Inveo, expert français d'une nutraceutique pure.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Bonjour Violaine.
Bonjour Fabrice.
Ravi de vous retrouver pour cette émission. Comme chaque semaine, on se dirige un peu vers la fin de cette saison. Et j'ai un peu de nostalgie à chaque fois que je fais ces émissions maintenant, comme un peu une colonie de vacances qui se termine. On va laisser les amis retourner chez eux. Comment ça va, Violaine?
Ça va très bien, Fabrice. Comme vous, on arrive à la fin de la saison, en fait, même dans mes différentes activités professionnelles. Donc ça va bien. Ça va bien, je suis contente de vous retrouver pour finir cette trilogie sur les plantes et huiles essentielles utilisées en Égypte.
Ah oh oui, c'est vrai qu'on...
Le lotus sacré.
Voilà, le lotus sacré qu'on avait confondu avec le lotus
bleu de Tintin.
Exactement. Là, vous êtes un petit peu en mode Néfertiti Violaine, la reine d'Égypte.
Oui, Néfertiti, Cléopâtre, Néfertari, tout ce que vous voulez. Mais effectivement, aujourd'hui, on va parler de deux autres huiles essentielles, celle du papyrus et celle de Neroli bigaradié. Pour conclure sur cette botanique égyptienne, en fait,
hein,
qui, à mon sens, est intéressante. Et puis, comme ça, moi, j'ai appris plein de choses. Et j'espère que les auditeurs aussi, vous apprenez des choses intéressantes sur ces traditions égyptiennes.
Mais oui, d'autant que ce sont des plantes qui font déjà voyager rien qu'à leur évocation. Et donc, vous êtes plus dans la peau de Isis, hein, déesse de la magie, de la guérison. Voilà.
Ah, bon. Vous êtes connaisseur, en fait, ou vous tapez sur Internet en même temps que vous me parlez.
Non, pas du tout. Je l'ai fait par contre 10 minutes avant. Oui, j'étale ma culture. C'est-à-dire que sans Internet, ma culture, je vous aurais dit « Ah oui, Astérix, Cléopatrix !» Mais là, voilà, ça me permet un petit peu de montrer ça. Mais, et puis d'apprendre, voilà. Donc sachez-le, chers auditeurs, Isis était donc la déesse de la magie, de la maternité, de la guérison. Et Violaine va nous parler donc du papyrus. Alors rien déjà pour démarrer. Le papyrus, une plante... méconnue quand même pour ses vertus médicinales.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, au tout début, je voulais vous faire une dernière chronique, un dernier volet sur les plantes égyptiennes dédiées au papyrus. Et puis, en fait, quand vous étudiez les plantes, notamment ancestrales, égyptiennes, etc., eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de croiser ça avec, croiser les connaissances et les données ancestrales et traditionnelles avec la science d'aujourd'hui, les études qui peuvent être faites sur les composés des différentes huiles essentielles, etc., etc. Alors, en fait, sur l'huile de papyrus, telle que je vais vous l'expliquer, vous allez voir, on a surtout des données qu'on appelle d'ethnomédecine, d'ethnopharmacie, qui sont basées sur la tradition, mais ce n'est pas une plante, qui a été étudiée sur le plan scientifique, contrairement à des cousins du papyrus. Donc, on se retrouve surtout avec des données basées sur la tradition égyptienne. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je ne l'avais pas expliqué la dernière fois sur le lotus sacré, mais on a un document en Égypte qui s'appelle le papyrus héberce, hein, alors papyrus dans le sens papier. Et le papyrus héberce, je ne sais pas si vous connaissez ça, Fabrice, mais c'est l'un des plus anciens traités de médecine. C'est vraiment, ce qui est dit, hein, c'est que c'est considéré comme l'émergence d'une pensée médicale et pharmacologique. Et ça contient à peu près 811 prescriptions à base de plantes, de remèdes différents, d'incantations, pour différentes pathologies, maladies, etc., qui sévissaient à l'époque en Égypte, hein, parce que c'est un document qui a été écrit, il est daté du XVIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est quand même un petit peu ancien. Et donc c'est à travers ce document qui a été traduit de différentes manières et que je vous invite d'ailleurs à consulter, on peut trouver différentes traductions, que l'on peut trouver les origines de la médecine, de l'usage de certaines huiles essentielles, etc. Et donc, du coup, le papyrus en fait partie, comme l'huile essentielle de Neroli dont je vais vous parler. Mais malheureusement, l'huile essentielle de papyrus n'a pas fait l'objet d'études plus approfondies à la suite, contrairement à ses cousins. Alors, du coup, si je vous parle du papyrus quand même, hein, parce que je voulais vous donner un certain nombre d'informations, parce que vous pouvez le trouver dans le commerce, hein, sur Internet, c'est très souvent associé à des produits cosmétiques, mais vous pouvez trouver des essences de papyrus ou des huiles essentielles de papyrus, donc ça me semble assez intéressant de vous dire ce que donnent les données ancestrales, les ouvrages ancestraux. Donc ce papyrus, en fait, il vient de la famille des Cyperacées, Fabrice. Et dans cette grande famille des Cyperacées, vous avez plus de 5600 plantes. Et parmi ces 5600 plantes, donc vous avez le genre, Cyperus, parce que le papyrus, son nom latin, c'est Cyperus papyrus. Et le Cyperus est considéré comme l'un des genres les plus intéressants dans le domaine de la santé. Il y a à peu près 19 espèces de cipérus qui ont été étudiées à travers le monde, mais pas le cipérus papyrus, du moins très très peu. Donc dans tous les cas, il faut savoir que ce genre cipérus, dont fait partie le papyrus, est traditionnellement utilisé pour tout ce qui est troubles de l'estomac et des intestins. Vous le trouvez aussi très souvent noté pour des propriétés diurétiques en fait. Et puis après, et vous allez voir au niveau de la tradition ancestrale égyptienne, c'est un genre qui est très utilisé pour soigner tout ce qui est maladie des voies respiratoires, comme les bronchites, et qui ont aussi des vertus, on va dire, vis-à-vis des maladies inflammatoires et de l'inflammation chronique et de l'inflammation chronique aiguë et chronique... aiguë et chronique en matière d'inflammation, excusez-moi. Donc, le papyrus, en fait... Quand vous regardez sa composition, donc vous voyez, hein, c'est une tige principalement qui peut monter à 5-10 mètres de haut sur le vrai papyrus. Et généralement, c'est composé de cellulose et de lignine. Alors, dans la tradition ancestrale égyptienne, c'est une partie de plante qui était consommable. D'ailleurs, je vous renvoie à la première chronique que nous avons fait sur le lotus sacré, où je vous expliquais qu'il y avait beaucoup de recherches menées actuellement sur les plantes aquatiques. Il y en a diverses. Et le lotus sacré est une des plantes une plante comestible quasiment à 100%. Eh bien, le papyrus est aussi une plante aquatique, comme vous le savez, et la tige se consomme, elle peut se consommer crue, elle peut se consommer cuite, elle est même mâchée, sucée et recrachée, un peu comme la canne à sucre. Donc, c'est une plante qui, lorsqu'elle n'est pas, mise sous forme d'huile essentielle, hein, si vous la consommez crue ou cuite, ben, elle vous apporte du calcium, du potassium, du magnésium, du fer et d'iode. Alors aujourd'hui, il est quand même assez rare de trouver des tiges de papyrus à consommer, mais il faut savoir que c'est une plante qui se consomme sur cette partie-là, qui contient aussi des protéines, tout comme les plantes aquatiques dont nous avons parlé lors de la chronique sur le lotus sacré. Ensuite, au niveau médicinal traditionnel, en fait, l'huile essentielle de papyrus, elle a quand même été étudiée par rapport à ses congénères. Alors, quand je dis ses congénères, c'est ce qu'on appelle le Cyperus rondutus, c'est du souchet rond. Alors, ce sont des plantes qui sont très similaires au papyrus. Si vous les regardez comme ça, c'est assez difficile de les différencier, mais ce sont juste des cousins, ce n'est pas le vrai papyrus. Eh bien, l'huile essentielle de papyrus, en fait, elle est très riche en monoterpènes. Alors, juste pour faire un petit rappel chimique, hein, parce que c'est souvent une question qu'on se pose, dans les huiles essentielles, donc vous avez des terpènes. Les terpènes, vous savez, Fabrice, ce sont les composés aromatiques que synthétise la plante. Et dans ces terpènes, on va distinguer les monoterpènes et les sesquiterpènes, par exemple. Et les monoterpènes, ce sont des molécules assez légères, aromatiques, qui donc ont des capacités en termes de diffusion, d'inhalation, parce qu'elles ont des capacités volatiles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elles ont des propriétés volatiles extrêmement importantes. Et du coup, l'huile essentielle de papyrus, elle est très riche en monoterpènes. C'est l'huile essentielle la plus riche en monoterpènes de toute la famille des cyperacées dont je vous parle. Elle a plus de 60% de monoterpènes. Et de ce fait, c'est une plante qui a été souvent utilisée et qui est utilisée pour assainir l'air, parce que dans la tradition égyptienne, et puis même maintenant, si vous brûlez les feuilles ou la tige de papyrus, eh bien, vous allez avoir ces monoterpènes qui vont se volatiliser et qui ont une des propriétés antibactériennes et antifongiques. Donc, riche en monoterpènes, cette plante a été longtemps utilisée un peu comme de l'encens, vous savez, pour purifier l'air. Et de ce fait, cette purification de l'air était associée au fait de traiter les maladies oculaires, parce que vous assainissez l'air et ça vous permet d'avoir sous forme de diffusion un traitement des pathologies oculaires. Ça a été aussi associé les feuilles brûlées de papyrus à la cicatrisation des plaies lorsque c'est appliqué sur la peau, aussi tout ce qui est traitement des maladies de la bouche, etc. Donc l'huile essentielle de papyrus, si vous en trouvez, en fait, vous pouvez l'utiliser en diffusion, tout simplement pour assainir l'air. Vous pouvez aussi l'utiliser parce que c'est elle est riche en monoterpènes, comme un stimulant général, comme un antiseptique des plaies, par exemple. Mais c'est tout ce que l'on trouve dans la tradition d'usage de l'huile essentielle de papyrus. Donc forcément, il y a des monoterpènes, donc elle a aussi des fonctions anti-inflammatoires, hein, c'est généralement associé. Donc voilà, donc c'est une plante qui est intéressante, hein, certes, qui coûte très très cher, donc vous avez plein d'autres alternatives à l'huile essentielle de papyrus si vous n'en trouvez pas. Mais pour ceux que ça intéresserait, sachez que voilà, elle peut être utilisée en diffusion pour assainir l'air, pour le traitement des maladies des yeux grâce à cette capacité de diffusion, et puis aussi en anti-inflammatoire, traitement des plaies, pour ses propriétés principales. Et puis, aussi, n'oublions pas quand même, Fabrice, que c'est une plante qui était utilisée pour faire les parfums de Cléopâtre. parce qu'elle a des propriétés olfactives extrêmement intéressantes. C'est pour ça que vous la retrouvez beaucoup dans les produits cosmétiques. Vous avez des marques que je ne citerai pas qui en utilisent en ce moment, comme antioxydants, comme revitalisants, et qui font tout un laïus sur l'huile essentielle de papyrus par rapport à ses propriétés cosmétiques. Moi, j'ai juste trouvé des informations sur le côté anti-inflammatoire et le traitement des plaies. Après, forcément, les extractions qui sont faites pour fabriquer des ingrédients cosmétiques doivent concentrer un certain nombre d'actifs avec des actions spécifiques. Mais voilà, l'huile essentielle de papyrus, elle sert grosso modo à ce type d'application. Et à côté, sauf si on fait la pause maintenant, Fabrice, donc il y a l'huile essentielle de néroli qui peut être associée à l'huile essentielle de papyrus.
D'accord. Extraordinaire, Violaine. Vous savez, oui, on fait une pause.
Ah, vous avez vu.
Au bout de 2 ans, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ces aventures égyptiennes après l'huile essentielle de papyrus. Et donc le papyrus, vous allez nous parler de l'huile essentielle de néroli, c'est juste après ceci.
Dans la vie, comme en matière de compléments alimentaires, on a toujours le choix. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez rien dans ce complément alimentaire d'Inveo. Rien. Zéro sucre, zéro additif, zéro excipient nocif, zéro substance controversée. Parce que nous voulons vous proposer les produits les plus purs et concentrés en actifs. Bien sûr, nos fournisseurs et des laboratoires indépendants contrôlent régulièrement nos compositions. Vous garantir une qualité et une efficacité constantes, ce n'est pas rien. D'Inveo, expert français d'une nutraceutique pure.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Comme je sais que Violaine, vous n'aimez pas les pauses et que vous, chers auditeurs, quand Violaine parle, eh bien, vous préférez aussi l'entendre d'une traite, il n'y en aura plus. Voilà, on avait prévu 2 pauses, il n'y en aura plus, on bouleverse les programmes. Je m'adresse à la régie Cognac G. Oui, plus de pause avant la fin de cette émission, s'il vous plaît. L'huile essentielle de papyrus, le papyrus, on en a parlé. Et maintenant, vous allez aborder. Alors, juste avant d'aborder l'huile essentielle de néroli, il n'y a pas de contre-indication pour l'usage d'huile essentielle de papyrus, par exemple ?
Alors, je n'en ai pas trouvé, mais comme on peut le dire d'un point de vue scientifique, quand nous n'avons pas de données, il faut limiter l'usage auprès des enfants, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, voire utiliser ce genre d'huile pour les adultes, ou du moins les jeunes de plus de 18 ans. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ces contre-indications. Sur tous les autres extraits des cousins du papyrus, on trouve des restrictions d'usage, etc. Mais j'ai rien trouvé du tout sur l'huile essentielle de papyrus. Donc, de ce fait, prudence. Et c'est une très bonne question parce que sur l'huile essentielle de néroli bigara, dont nous allons parler, c'est tout l'inverse. Vous avez quasiment aucune toxicité qui est avérée, que ce soit par usage, par la voie orale, par inhalation ou par la voie cutanée. Très bonne transition, Fabrice.
Eh ben ouais, si je peux vous aider, il n'y a pas de souci.
Merci de clarifier le propos. Donc, en fait, la deuxième huile de cette chronique et la toute dernière dans ma trilogie égyptienne, c'est l'huile essentielle de néroli bigarade. Alors, je pense que certains auditeurs vont dire, mais pourquoi c'est associé à l'Égypte ? En fait, ce n'est pas associé qu'à l'Égypte, cette huile essentielle de néroli, puisqu'on la trouve, le bigaradier, le petit arbuste dont est extrait cette huile essentielle, se trouve surtout le bassin méditerranéen principalement, mais aussi en Asie. Néanmoins, dans la culture médicinale ancestrale égyptienne, et aujourd'hui, l'huile essentielle de néroli est très utilisée en Égypte pour les différentes applications que je vais vous indiquer. Et en plus, par rapport à son caractère, on va dire, anti-inflammatoire, elle s'associe facilement avec l'huile essentielle de papyrus. Alors, l'huile essentielle de néroli bigarade, Fabrice, il ne faut surtout pas la confondre avec 2 autres huiles essentielles essences que l'on peut produire avec ce petit arbre qui s'appelle le bigaradier. Vous savez, c'est un petit arbuste, qui peut faire quand même 5 mètres de haut, qui produit des petits agrumes très amers. Et son nom latin, d'ailleurs, c'est Citrus aurantium amara, pour ceux qui sont férus de latin et de nom botanique. Alors, cet arbuste, le bigaradier, eh bien, en fait, avec, vous pouvez faire de l'huile essentielle de petits grains de bigarade. Et ça, c'est fait avec les fruits, les petits agrumes verts, pas tout à fait mûrs, et les feuilles. Vous pouvez faire donc de l'huile essentielle de néroli bigarade à partir des fleurs, et c'est ce dont nous allons parler là tout de suite. Et puis, vous pouvez faire aussi de l'essence d'orange amère avec les zestes des fruits. Donc là, on parle de l'huile essentielle de néroli bigarade, on ne parle pas de l'huile essentielle de petits grains de bigarade. Il ne faut surtout pas faire la conclusion, parce que justement, par rapport à ces éléments relatifs à l'absence de toxicité, ça ne porte que sur l'huile essentielle issue des fleurs. Et donc, sur cette huile essentielle issue des fleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Encore une fois, donc c'est très riche en monoterpènes. Vous avez différentes molécules comme le linalol, limonène. Je suis sûr que les auditeurs connaissent ces molécules parce qu'elles sont identifiées comme des substances allergiques, allergisantes dans les produits cosmétiques, ce qui est le cas hein, lorsque les concentrations sont trop élevées, mais ça fait partie des actifs. Ce ne sont pas que des allergènes, ce sont aussi des actifs qui font partie de la grande famille des monoterpènes. Et vous avez une composition chimique de cette huile essentielle de néroli qui fait que la richesse en monoterpènes et la typologie, l'identité des actifs que je vous ai cités vont agir sur différents paramètres et principalement sur le côté sommeil, propriété calmante, relaxante, anxiolytique, etc. Et je voudrais juste vous dire par rapport au fait de chercher une huile essentielle de néroli bigarade, vous en trouvez assez facilement. La composition diffère vraiment selon que l'huile essentielle provient de l'Égypte ou de la Corse, ou du Maroc. On a vraiment des profils qui diffèrent, et notamment la concentration dans les différents monoterpènes dont je vous ai parlé. Dans tous les cas, cette huile essentielle de néroli, comment elle est utilisée en Égypte, et puis un peu partout, hein, parce que l'efficacité de cette huile essentielle, elle a été étudiée. On n'est pas juste sur des données ancestrales comme l'huile essentielle de papyrus. Vous avez beaucoup d'études qui portent sur l'huile essentielle de néroli bigarade. Et donc, vous avez principalement des propriétés sur tout ce qui est troubles anxiolytiques et calmants. Elle a vraiment un effet sédatif. Il y a même des études qui montrent qu'elle augmente le temps de sommeil qui est induit par des barbituriques ou des somnifères, si vous en prenez. Donc, elle favorise le prolongement du sommeil. C'est une huile qui a été étudiée pour son effet sur les symptômes liés à la ménopause ou le syndrome prémenstruel et un effet aphrodisiaque. Et ce qui est intéressant avec cette huile essentielle, Fabrice, c'est que les propriétés que je vous liste là, elles se retrouvent que ce soit via une utilisation olfactive, vous savez, de quelques gouttes que l'on met sur le poignet, sur un mouchoir, sur un oreiller, par voie orale également et par voie cutanée via les massages. Donc, pour reprendre la liste des actions ou des efficacités qui sont étudiées via des études, hein, des vraies études, et non pas juste des livres ancestraux, donc anxiolytique calmant par la voie olfactive ou la voie orale et cutanée. Ça agit donc sur les troubles du sommeil, je vous l'ai dit, aphrodisiaque, et ça agit sur les symptômes liés à la ménopause et aux troubles prémenstruels. Et puis aussi, par rapport à ces différents composés, c'est une huile essentielle qui a vraiment vraisemblablement une action antalgique. Elle agit sur l'inflammation aiguë, chronique. Il est associé, enfin, cette efficacité est associée à la concentration en linalol de l'huile essentielle. Et puis, comme majoritairement toutes les huiles essentielles qui contiennent des monoterpènes, c'est un antibactérien, un antifongique. Je vous disais tout à l'heure que l'huile essentielle de papyrus ou les feuilles de papyrus brûlées un peu comme de l'encens dégageaient des monoterpènes volatiles qui permettaient d'assainir l'air et de traiter les maladies oculaires. Et bien là, sur l'huile essentielle de néroli, elle a aussi une fonction antibactérienne et antifongique et elle peut être largement utilisée, notamment diluée dans de l'huile végétale sur des plaies ou sur la peau pour la désinfection. Et puis, par rapport à son utilisation, en fait, ce que l'on retrouve beaucoup, c'est que si vous voulez utiliser l'huile essentielle de néroli comme une huile essentielle contre la douleur, contre l'inflammation, eh bien, en fait, il y en a plein d'huiles essentielles qui font ça, hein, parce que des huiles essentielles avec des monoterpènes, même des cisquiterpènes qui ont aussi une action anti-inflammatoire, vous en avez partout, parce que c'est le propre même des huiles essentielles. Bien souvent, les recommandations, il y a d'ailleurs une étude qui est sortie là, il n'y a même pas un mois, dans une revue qui s'appelle Actualité pharmaceutique, qui est à destination des pharmaciens d'officine, et bien on recommande d'utiliser cette huile essentielle avec d'autres huiles essentielles anti-inflammatoires, mais qui sont olfactivement compatibles, comme l'ylang-ylang, le gingembre, mais aussi l'huile essentielle de papyrus, par exemple. Elle se marie très très bien pour avoir une action complémentaire anti-inflammatoire, que ce soit en prise orale ou que ce soit en prise cutanée ou en diffusion. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, et je terminerai par ça, Fabrice, c'est que l'huile essentielle de néroli bigarade, quand vous regardez les recommandations pour les pharmaciens d'officine, hein, qui ont été éditées, je disais en juin 2023, mais on n'est même pas au mois de juin encore, mais qui ont été éditées, indiquent que c'est une huile qui peut être utilisée chez le bébé, même en dessous de 3 mois, pour différentes applications, donc notamment cutanée chez l'enfant, pour les différentes propriétés que je vous ai citées. Oui, je me suis perdu un peu dans les dates.
Oui, vous êtes perdu dans les dates. Il n'y a pas de souci. On est à le 31. Donc, voilà, on est quasiment au mois de juin, là. Et puis, si ceux qui écoutent la rediff, ils sont déjà dans le mois de juin.
Oui, non, mais tout à fait. Non, mais parce que c'est vrai que, comme vous le savez, les magazines portent des dates de d'édition et de publication, et parfois c'est un petit peu, j'anticipe un petit peu. Donc, merci, Fabrice. Donc voilà. Donc l'huile essentielle de Neroli, Bigarade, très intéressante, pas de toxicité avérée, en diffusion cutanée ou en prise orale. C'est même recommandé en usage hein, pour les enfants de 3 mois à 1 an. Moins de 6 kilos aussi, un enfant peut très bien supporter l'huile de Neroli Bigarade. Donc, vous pouvez le mettre dans son bain, par exemple, pour un effet apaisant. Par contre, on ne le donne pas par voie orale aux enfants. Hein. On ne donne jamais d'huile essentielle aux enfants par voie orale. Mais c'est une huile essentielle qui est très intéressante et qui peut se marier avec l'huile essentielle de papyrus. Donc voilà, et c'est des usages qu'on retrouve traditionnellement en Égypte. C'est pour ça qu'ils la vendent beaucoup, cette huile essentielle. Un peu plus que l'huile essentielle de papyrus, hein, dont l'usage est quand même un petit peu oublié, on va dire.
Eh bien, merci beaucoup, Violaine. Voilà qui clôture une belle trilogie de plantes égyptiennes qui donc fait suite à votre voyage là-bas. Quel sera votre prochain voyage et tous les voyages que vous allez faire cet été, parce que vous allez revenir avec des rubriques et des explications sur des plantes magiques.
Non, mais alors la prochaine chronique, non, ça sera un voyage très très court en distance, puisqu'on va parler de l'usage des huiles essentielles par les pharmaciens d'officine, les pharmacies des hôpitaux, puisqu'il y a beaucoup beaucoup d'évolutions sur l'usage des huiles essentielles dans les établissements hospitaliers, même publics, hein, notamment sur le traitement de l'air, sur les caractères et les propriétés antiseptiques des huiles essentielles. Et on parlera aussi des huiles essentielles à mélanger soi-même, ou les sociétés qui vendent des huiles essentielles, ou du moins des mélanges d'huiles essentielles faits sur mesure. Donc on va changer un petit peu, on garde l'aromathérapie comme fil conducteur, mais dans un usage, on va dire, très contemporain et à portée de main, comme la pharmacie d'officine en bas de la rue.
Bien, et j'imagine qu'il y aura donc aussi beaucoup de précautions, parce qu'on sait que, je pense que les huiles essentielles, c'est l'une des raisons principales hein, pour les urgences par rapport à l'allopathie. Il y a beaucoup de gens les mésusages des huiles essentielles sont assez terribles en réalité.
Oui, complètement. Et puis vous verrez, je vous expliquerai ce qui est possible maintenant d'obtenir de la part de son pharmacien d'officine. Si vous voulez faire des mélanges d'huiles essentielles, pas par vous-même, mais par un professionnel comme par un pharmacien d'officine, je vous expliquerai les règles qu'ils doivent respecter pour vous faire des mélanges sur mesure, on va dire, ou des mélanges d'huiles essentielles. Il y a un certain nombre de recommandations, que ce soit sur les concentrations, la température de conservation, la durée de conservation des mélanges, etc.
Verrez, eh bien, écoutez, ce sera la semaine prochaine sur Nutri Radio. Ça bouge énormément. Eh bien, écoutez, il n'y a que sur Nutri Radio qu'on a des émissions de cette qualité-là, mesdames, messieurs. Émission à réécouter en podcast à partir de dimanche 18h. La semaine dernière, on était un peu en retard, mais vous savez que c'est jour férié, on ne sait plus où on habite, c'est compliqué. Donc, à partir de dimanche 18h, là, sur nutriradio.fr, dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Violaine. Au revoir.
Merci Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.